Radio01.net vous présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Partie 1. Thème, introduction et problématique.
Cette seconde émission sera consacrée à Metal Gear Solid sur PlayStation. Compte tenu de la nature de ce qui va suivre, il y aura dans cette émission plusieurs spoilers et révélations sur le déroulement et le scénario du jeu en question. Metal Gear Solid est un peu la tarte à la crème des discussions portant sur le jeu vidéo comme média culturel. Au fur et à mesure des années, l'on a vu fleurir des articles et des ouvrages portant tant sur le gameplay novateur du jeu, mêlant action et infiltration et qui a influencé, après lui, toute une batterie de jeux, de Splinter Cell à Assassin's Creed, que sur sa narration et son scénario, qui oscille entre complots militaro-scientifiques et humour grand-guignolesque. Metal Gear Solid, cependant, et je crois que tout le monde sera d'accord avec ça, est un jeu on ne peut plus riche, et il paraît difficile, pour ne pas dire vain, d'essayer de l'embrasser dans sa totalité. J'ai alors décidé de me focaliser sur un signe vidéoludique précis et de m'en servir comme illustration d'un des thèmes embrassés par le jeu. Cette analyse s'étendra quant à elle à l'ensemble des jeux de la série, nommément Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3. Je laisse volontiers de côté le quatrième épisode, n'ayant eu la chance d'y jouer suffisamment longtemps pour obtenir les éléments nécessaires à cette réflexion. Au début du tout premier Metal Gear Solid, si vous vous rappelez bien, Solid Snake, le protagoniste du jeu, s'infiltre sur l'île Shadow Moses par la voie des eaux au moyen d'une combinaison d'hommes-grenouilles. Au début du jeu, Snake est nu comme un ver, si l'on peut dire, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on aurait pu attendre d'un jeu d'action, il ne possède aucune arme de poing ni aucun objet particulier, du moins aucun objet qu'il lui est possible d'équiper. Je mets volontairement de côté le codec intra-auriculaire et le système de cartes, puisque l'on n'aura jamais à sélectionner ces objets, ceux-ci étant perpétuellement actifs le long de la partie, malheureusement diront même certains d'entre nous. Cependant, Snake, contrairement à ce que j'ai pu dire à l'instant, possède bien quelque chose. Un paquet de cigarettes. J'ai toujours trouvé ça étrange pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les cigarettes, au cours d'une partie classique, c'est-à-dire pour le joueur qui ne cherche pas spécifiquement à débusquer toutes les astuces et autres easter eggs disséminés par les développeurs, ne sont d'aucune utilité particulière. Certes, la fumée dégagée permet de repérer des faisceaux laser, entre autres, mais il vaut mieux acquérir pour cela des lunettes à infrarouge. Ensuite, le jeu dépense plusieurs lignes de dialogue et justifie au plus haut point leur présence. Au début du jeu, l'on a injecté à Snake un sérum, qui met en quelque sorte ses fonctions vitales en hibernation et fortifie son organisme afin de lui permettre de survivre aux eaux glacées de l'archipel. L'une des conséquences du sérum a été de suspendre les fluides gastriques de son estomac, ce qui a permis à Snake d'avaler un paquet de cigarettes et de le restituer sans l'endommager. Cependant, il ne me semble pas qu'à un autre moment dans le jeu, cette conséquence du sérum injecté soit mise en avant pour justifier un détail du scénario. Enfin, et peut-être la chose la plus étrange, fumer une cigarette draine progressivement votre vie. De prime abord, l'on pourrait trouver la chose logique. Après tout, le tabac n'est-il pas mauvais pour notre santé? Mais leur effet est profondément exagéré. Si l'on considère que la barre de vie représente, stricto sensu, l'espérance de vie du personnage, qui décroît donc en fonction des dégâts pris par Snake au cours du jeu, pourquoi ne descend-elle pas tout simplement au fur et à mesure du temps, puisque le personnage vieillit, et ce de la même façon que fera celle de The End dans Metal Gear Solid 3? Et si l'on considère qu'il ne s'agit que d'un signe propre au jeu vidéo, sans équivalent aucun dans la vie réelle, pourquoi la fumée nous fait-elle du mal? Bref, d'où que l'on regarde, cela ne semble pas faire sens. Évidemment, les plus vieux d'entre nous, ou peut-être les plus curieux, savent que dès le premier Metal Gear, sur MSX et NES. Snake possédait un paquet de cigarettes. Compte tenu dès lors des références multiples à cet ancien jeu présent dans Metal Gear Solid, que ce soit en termes d'environnement ou de personnages, l'on pourrait très bien se dire qu'il ne s'agit là qu'un élément de plus permettant de ramener dans les esprits contemporains des œuvres bien plus âgées. J'aurais tendance cependant à mettre cette cigarette en relation avec l'une des dimensions de Metal Gear Solid, qui serait son caractère méta-vidéoludique, pour reprendre un terme à la mode, et son jeu constant avec les concepts de réalité et de fiction. Je pense qu'il s'agit d'ailleurs, mais ce n'est qu'une impression personnelle, du point critique de la série entière, et que tout pourrait se ramener à cette question. Aussi, je poserai la problématique de ce numéro comme suit. En quoi la cigarette de Metal Gear Solid est une invitation, pour le joueur, à considérer l'ensemble du jeu comme une réflexion poussée sur les relations entre la réalité, la fiction et le jeu vidéo.
Partie 2, définition.
Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur plusieurs définitions qui me semblent nécessaires pour comprendre la suite de cette analyse. En effet, j'ai cru observer parmi certains auteurs une tendance à manipuler des concepts de façon floue ou partiellement erronée, ce qui conduit évidemment à quelques flottements dans le propos. Les définitions et réflexions qui suivent, même si elles ne prétendent pas être des observations définitives sur ces objets complexes, vont du moins essayer de tracer l'arrière-plan théorique que j'utiliserai au cours de cette émission. Ce qui va suivre est inspiré, sinon tiré directement, des études réalisées par les chercheurs Kate Hamburger, Gérard Genette, notamment dans Palimpseste, la littérature au second degré et Fiction et diction, et Roland Barthes. Commençons par la notion de réalité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire d'instinct, ce concept ne possède pas un, mais deux antonymes ou quasi-antonymes, la fiction et la vérité. Étymologiquement, le mot « réalité » vient du mot latin « res rei », soit « la chose », au sens d'objet physique du monde sensible. Le terme a été forgé aux alentours du XIIIe siècle de notre ère, et non pas, comme on pourrait le penser, dans l'Antiquité. Tout ce qui possède une forme, une dimension et une existence physique est une « res ». De là, tout ce que vous pouvez voir, sentir, toucher, goûter, entendre, bref, tout ce qui est du ressort des cinq sens tels qu'on les définit classiquement appartient à la réalité. Cependant, la réalité possède deux aspects concomitants et qui sont à l'origine des antonymes dont je parlais plus haut. Le premier aspect est une réalité de concept ou atemporelle. L'objet réel possède certaines caractéristiques intemporelles qui permettent de le saisir indépendamment d'une notion de temps. Par exemple, il est certain que la personne René Descartes est réelle, mais vous ne pouvez le toucher, le voir ou l'entendre. En revanche, il existe des témoignages divers et des écrits qui témoignent de sa réalité. En un mot, la réalité est éternelle. Une fois qu'un objet du monde est réel, il ne cesse plus jamais de l'être. Deuxièmement, une réalité d'actuation, c'est-à-dire l'expression concrète de la dimension atemporelle dans notre monde contemporain et sensible. À ma gauche, par exemple, il existe un objet réel cendrier, qui existera toujours, mais qui a une existence temporelle et mortelle, que je peux toucher ici et maintenant, mais non plus dans 50 ans, lorsque je l'aurai cassé, ou recycler. La notion de vérité maintenant va s'opposer spécifiquement au premier aspect atemporel de la réalité. Elle va être associée à un moment précis de l'existence humaine, mais peut être remis en question à n'importe quel instant, jusqu'au jour où elle deviendra réalité. Une illustration simple serait de considérer certaines théories scientifiques. Par le passé, par exemple, l'on a pu considérer que le Soleil tournait autour de la Terre. C'était là une vérité, mais ce n'était pas la réalité. Et à l'instant même où je dis cela, Rien ne me dit que la science nous prouvera un jour que les deux astres sont fixes et qu'un autre phénomène explique le jour et la nuit que nous observons. Je ne développerai pas cela plus en avant car je m'éloigne de mon propos. La notion de fiction, quant à elle, s'oppose à la réalité d'actuation. C'est-à-dire qu'un objet qui sera considéré comme fictionnel ne possède aucune réalité concrète et physique. L'on ne peut le percevoir et personne ne l'a jamais touché ou ressenti. À l'origine, et jusqu'au XVIe siècle en France, le terme désignait principalement les mensonges, ce qui est créé pour tromper ou décevoir quelqu'un. La fiction, cependant, ne s'oppose pas systématiquement à la réalité de concept. D'une part, il est possible que ce que l'on présente comme fiction ait eu une réalité, mais que les preuves de celle-ci se soient perdues, à l'image du poète grec Homère. Et d'autre part, il est des canulars qui passent pour longtemps comme réels avant que l'on ne comprenne qu'ils n'ont aucune réalité concrète ou physique. Le fait que la fiction s'oppose principalement à la réalité d'actuation et non à la réalité de concept est un élément primordial pour la compréhension des œuvres culturelles, fussent-elles des films, des livres ou encore des jeux vidéo. Ces fictions, ici bien prises dans le sens de construction imaginaire, ne possèdent pas de réalité concrète puisque ce sont des produits de l'esprit. En revanche, elle possède une réalité de concept, puisqu'on peut les décrire. La littérature, ainsi, a été pendant très longtemps considérée comme un récit de témoignage, et les premiers spectateurs de cinéma hurlaient en voyant une locomotive foncer sur eux, car ils ne pouvaient pas faire la distinction que j'évoquais à l'instant. Les choses deviennent plus intéressantes lorsque l'on se place dans l'univers de la fiction en elle-même, et non avec le recul confortable de notre réalité connue. Car les personnages qui évoluent dans ces œuvres, eux, perçoivent les objets comme ayant une réalité concrète. Lorsque, dans la célèbre série de films Star Wars, Luke Skywalker parle à C-3PO ou Z6PO, il parle réellement à un robot et non pas à un homme déguisé en robot. C'est ce que l'on pourrait appeler la cohérence fictionnelle, propos auquel nous sommes intensément attachés. Rien ne nous énerve davantage, en regardant un film ou en jouant à un jeu vidéo, de trouver une incohérence dans le scénario ou de voir les ficelles d'un trucage qui nous ferait sortir de l'univers entrevu. Le propre même de la fiction pourrait être ramené à ce que l'on aura appelé la suspension de crédulité, c'est-à-dire le pouvoir qu'a la fiction de nous faire croire que tout ce que l'on observe est réel sans qu'on ne puisse y trouver à redire selon les avancées actuelles de la science ou notre connaissance même du monde réel que nous arpentons. Nous en arrivons alors au principe de l'écriture au second degré, appelé également pour les arts visuels « briser le quatrième mur ». C'est un concept connu depuis longtemps, mais on considère généralement que ce sont les philosophes des Lumières, notamment Denis Diderot, qui ont formalisé ce principe en prenant le théâtre comme illustration. Il faut se représenter la scène de théâtre comme ayant quatre murs, le public étant derrière l'un de ceux-ci, et il observe alors les acteurs comme derrière une glace sans teint. Aussi, les acteurs, ou plutôt les êtres réels du monde de la fiction, ne savent pas que le public les observe. Dire qu'une œuvre brise la règle du quatrième mur, c'est circonscrire un instant, généralement très localisé, où les acteurs-personnages deviennent conscients de leur appartenance à un monde de fiction et divisent leur personne en deux, l'une appartenant à notre monde, l'autre appartenant à la fiction, recréant ainsi la dichotomie fondamentale et fort bien étudiée entre acteurs et personnages. Il ne faudrait cependant pas croire la chose nouvelle. Le théâtre grec utilisait déjà ce principe, Shakespeare de même et ce très régulièrement, et c'est même un concept qui a parcouru globalement le théâtre tout le long de son histoire. Le cinéma ou la littérature de même ont souvent utilisé cela, parfois en passant par une variation de la règle du quatrième mur qui consiste à mettre en scène des personnages qui réfléchissent et qui créent une œuvre dans laquelle ils figurent déjà. Aussi, on a pu observer des personnages de films qui réalisent des films, comme dans Le Mépris de Godard, ou plus prosaïquement Scream 2, ou bien on peut observer également des personnages de livres qui écrivent de livres, comme ce personnage des faux-monnayeurs de Gide, qui écrit un roman qui s'appelle Les faux-monnayeurs, etc., etc. Dans le monde du jeu vidéo, cependant, ces initiatives sont rares, ou pour le moins relativement méconnues. Si certaines séries s'amusent ponctuellement à se revendiquer en tant que jeux vidéo, comme certains Point & Click LucasArts, ou bien encore la série des Paper Mario, les jeux vidéo se prennent généralement énormément au sérieux. Et ce quand bien même leurs propos peuvent paraître, parfois et quand on y pense sincèrement, ridicules.
Partie 3, Metal Gear Solid et le quatrième mur.
La grande exception, il nous faut l'ajouter, est bien évidemment la série des Metal Gear Solid. Il est possible de considérer que cet épisode possède trois dimensions ou réseaux de signes qui rentrent en concurrence les uns avec les autres. Le premier réseau est celui de l'univers de la fiction en lui-même, de son histoire et des mécanismes du jeu. Je ne m'attarderai pas sur celui-ci puisque ce n'est pas le propos de cette émission. Il s'agit de la façon dont les jeux utilisent leur code pour se construire, l'inclusion d'une barre de vie, les ennemis réapparaissant, le fait que le héros puisse accomplir des actions irréalisables par un être humain normalement constitué, ou encore qu'avaler une ration puis soigner saignements et fractures, etc., etc. C'est là l'essence même du jeu vidéo, sa grammaire pour ainsi dire, aussi je ne m'attarderai pas davantage ici. Le second réseau développé est celui de la parodie en règle générale. Il n'est à nouveau une surprise pour personne de dire que Metal Gear Solid est un jeu qui s'amuse lui-même de son scénario et de ses personnages. La chose dans le premier épisode est supportée notamment par le personnage d'Otacon, qui n'hésite pas à régulièrement pointer du doigt que tel événement, tel personnage, telle parole ressemble ou renvoie à un film, une série ou un manga quelconque, ou encore par l'intermédiaire de cette charmante jeune fille nous proposant de sauvegarder Mei Ling, qui terminera chacune de ses interventions par une citation d'un homme célèbre. J'aimerais attirer ici l'attention sur le fait que la parodie ne brise pas la règle du quatrième mur en soi. Il s'agit simplement pour la fiction de construire un univers où la réalité, telle que je l'ai définie plus haut, est tellement différente de la nôtre qu'elle produit un décalage drôlatique avec celle-ci. Aussi, lorsque les loups deviennent amoureux de Meryl, lorsque les gardes ne s'étonnent pas de voir des boîtes en carton voguer ci et là, ou lorsque l'on assiste à des scènes de nus, bref, tout ceci est à prendre sous l'angle de la parodie. Globalement causant, on peut même considérer que l'existence même du Metal Gear, c'est-à-dire d'une sorte de Gundam purement japonais, dans un monde qui traite avec beaucoup de sérieux de conflits armés réels et d'armement nucléaire, est une parodie et une révélation ou un twist bien drôle pour toute cette aventure. De même, et pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, je passerai rapidement sur cet endroit du jeu qui a été régulièrement commenté. Le troisième réseau est celui qui nous intéresse plus particulièrement, briser le quatrième mur. Pour une pièce de théâtre ou un film, briser le quatrième mur peut se faire de deux façons distinctes. On peut tout d'abord s'adresser directement au spectateur, le personnage signifiant ainsi qu'il est au fait qu'il existe un public le regardant. Le film Wayne's World peut vous donner une idée de ce à quoi cela peut ressembler. Le long de ce film, Wayne s'adresse directement au public de la salle de cinéma ou bien du salon sur lequel est joué la VHS ou le DVD, comme si l'on tournait un documentaire sur sa propre petite personne. Ensuite, on peut montrer, sans qu'il ne soit systématiquement nécessaire de s'adresser au public, les ficelles et les trucages, les décors en carton et les poutres qui supportent les immeubles. Celles et ceux qui ont vu Monty Python Holy Grail se souviennent sans doute de cette scène où l'animateur, dessinant un monstre, a soudain une crise cardiaque, faisant alors disparaître ce dernier du film. Ce serait une bonne illustration de ce phénomène-ci. Contrairement à ce dont les joueurs se souviennent, Metal Gear Solid semble privilégier bien davantage la deuxième stratégie que la première. En effet, les seules véritables fois où un personnage de jeu s'adresse directement au joueur, entité humaine et réelle derrière son écran de télévision, c'est lors de la phase de torture, dirigée par Revolver Ocelot, qui précise que si le joueur utilise une manette turbo, il le saura, et que la mort de Snake signerait bien là la fin de sa partie. Deuxième moment où la règle du quatrième mur est brisée directement, il s'agit bien évidemment du combat contre Psycho Mantis, où celui-ci lit la carte mémoire de la console, fut-elle la PlayStation ou la GameCube, par intermédiaire de la réédition du jeu Twin Snakes. Toutes les autres fois où un personnage fait référence au monde extra-diégétique, c'est-à-dire au monde au-delà de l'univers du jeu, il le fera à l'adresse des personnages appartenant eux-mêmes au jeu, et non pas au public, respectant ainsi la règle du quatrième mur. Que ce soit Mei Ling demandant à Snake, et non pas au joueur, s'il veut sauvegarder, le colonel demandant à Snake, et non pas au joueur, de regarder le boîtier du jeu afin d'obtenir la fréquence de codec de Meryl, ou encore de brancher sa manette sur le deuxième port de la console, tout porte à croire que l'on s'adresse directement à Solid Snake. Preuve s'il en est, c'est notamment lorsque celui-ci est immobile et attaché à un appareil de torture que l'on s'adresse directement au joueur, comme si ce dernier n'était jamais que la personne de secours à contacter en cas d'indisposition de Snake. Cette très longue introduction étant terminée, revenons une fois encore sur ce dernier point et parlons de la cigarette que nous semblons avoir perdu de vue depuis quelques minutes.
Partie 4, Avatar et représentation.
Briser le quatrième mur, comme il a été dit plus haut, c'est créer une séparation entre l'acteur et le personnage. Dans le domaine du jeu vidéo, il s'agirait davantage d'une séparation entre le personnage, Solid Snake, et sa réalité, le personnage de jeu vidéo soumis, comme tous, à la grammaire propre, aux médias et au bon vouloir du joueur. Il est fascinant de voir, cependant, que Snake, ici, ne s'étonne pas de sa condition, qu'on lui propose de sauvegarder ou de regarder sur la boîte de jeu. Il semble l'accepter sans se poser de questions. Il est alors intéressant de considérer que, traditionnellement dans un jeu quelconque, les informations utilitaires concernant les menus du jeu, les sauvegardes, les tutoriaux, etc. sont délivrées aux joueurs directement, sans qu'il y ait une justification diégétique, c'est-à-dire au sein de l'univers du jeu en lui-même. Du moins, il me semble que Metal Gear Solid a été l'un des premiers à opérer ainsi, même si le processus se répétera, par exemple, avec Rayman 3 et notre ami Murphy la Grenouille qui nous lira le manuel du jeu. Ce qui surprend dans Metal Gear Solid, cependant, c'est que tout ceci est fait de la façon la plus sérieuse qui soit, nous semble-t-il. Tout se déroulerait en réalité comme si Snake n'était pas réellement sur le même plan d'existence que les autres personnages du jeu, mais qu'il était bel et bien une représentation assumée et cohérente du joueur au sein de l'univers de la fiction. L'image qui me viendrait immédiatement à l'esprit serait celle du film Tron, où le personnage joué par Jeff Bridges se retrouve brutalement propulsé dans le monde de l'informatique et n'a pas un avatar qui lui est propre. Il est son propre avatar. Ici, le joueur est Solid Snake. Mais l'on n'observe pas ici le processus habituel qui nous permet de nous distancer de ce qui se passe à l'écran. En nous faisant dire que Snake est conscient d'être un personnage de jeu vidéo, il possède le même savoir que le joueur, ce qui permet alors de tracer un parallèle, ou plutôt un signe d'égalité entre les deux entités. Nous sommes arrivés à cette conclusion par l'intermédiaire de ces scènes avec Psycho Mantis ou Mei Ling, mais il était possible d'arriver au même point en se penchant davantage sur cette fameuse cigarette. Car elle a à la fois un pied et dans le monde de la diégèse et dans l'univers du jeu. Bref, elle appartient à Solid Snake, personnage, par l'intermédiaire du dialogue liminaire qui expliquait comment il avait pu prendre le paquet dans son estomac sans l'endommager, et à Solid Snake, héros de jeux vidéo, puisqu'elle consomme de sa barre de vie indépendamment de la gravité du dégât reçu. C'est ce seul élément qui est ici important, et rien de plus. Tout comme une balle de pistolet va légèrement endommager votre barre de vie sans vous empêcher de poursuivre l'aventure, la cigarette entame votre vitalité de même. L'une des règles de la grammaire du jeu vidéo est respectée, règle que l'on peut édicter comme suit: les dégâts enregistrés ne dépendent pas de l'origine de ceci, mais bel et bien du choix effectué par les programmeurs lors de l'élaboration du jeu vidéo. Les conséquences de cet indice, ou de ces indices, si l'on considère ici tous ces signes qui font réseau, sont multiples et participent à faire de Metal Gear Solid une immense réflexion sur le jeu vidéo en lui-même. En effet, si vous vous souvenez des trois réseaux ou dimensions que j'évoquais, c'est-à-dire celui de l'histoire du jeu, celui de la parodie et celui du quatrième mur, vous vous apercevrez qu'ils sont mutuellement exclusifs. L'on ne peut prendre l'histoire pour agent comptant si on la considère comme parodique. Et l'on ne peut prendre en compte ni l'une ni l'autre si l'on considère que tout est fait pour nous rappeler que Metal Gear Solid est un jeu vidéo et même fait tout pour que l'on le considère comme montrant ses ficelles et sa programmation à chaque instant. Dans le jeu, cela se traduit par les nécessités nombreuses de faire du backtracking pour obtenir un objet comme le fusil sniper, où l'on doit revenir exactement au même endroit et non à un autre, alors que les développeurs auraient pu créer un autre hangar avec une nouvelle disposition. Cela passe également par l'inclusion d'un dispositif de téléportation que l'on retrouvera notamment dans Metal Gear Solid 3 par l'intermédiaire des camions et des boîtes en carton, ou de ces gros signes d'exclamation ou d'interrogation au-dessus de la tête des soldats. L'idée qu'un homme à pied affronte un tank à lui tout seul est révélateur de ce phénomène, la chose ne cessant même d'être répétée par les personnages ébahis le long des jeux. On peut citer également les power-up, comme le fait que la barre de vie augmente après chaque combat de boss, ou encore la nécessité de devoir se battre à main nue contre le ninja, alors que l'on a des armes à feu. Mais qui donc ferait cela ? Solid Snake, puisque les développeurs l'ont voulu ainsi. Même la répétition de certaines scènes ressemble sciemment à du copier-coller, comme ces deux prisons où l'on va trouver à deux reprises le cadavre du président de l'organisation DARPA. Même si, dans le premier cachot, on le saura, le cadavre était celui de Decoy Octopus. Contrairement à ce que l'on peut croire d'instinct, non seulement l'histoire de Metal Gear Solid n'est pas à prendre au sérieux, mais de plus, elle s'amuse du fait qu'elle est un jeu vidéo. Ce n'est ainsi pas un accident si Metal Gear Solid 2, si l'histoire de Metal Gear Solid 2 fait de tout le passage sur la plateforme offshore la fameuse simulation S-Cube ou Solid Snake Simulation visant à recréer les événements du premier jeu. Metal Gear Solid 2 est, bien plus que Twin Snakes, un remake du premier Metal Gear Solid et l'assume jusqu'au bout des ongles.
Partie 5, symbole, irréflexivité.
La cigarette, comme objet transdimensionnel, c'est-à-dire nous permettant de comprendre que tel personnage possède cette dualité personnage de jeu, personnage du jeu, est à observer avec attention le long des trois premiers Metal Gear Solid. Solid Snake fume, nous l'avons montré. Naked Snake fume également, et l'on aura même une belle scène au ralenti de Naked Snake jetant son cigare avant son saut en parachute au cours de la toute première cinématique de Metal Gear Solid 3. Raiden, dans Metal Gear Solid 2 et en revanche, ne fume pas, signe qu'il appartient, quant à lui, parfaitement au monde de la diégèse. L'histoire de ce jeu peut se lire comme la lutte de Raiden pour se revendiquer en tant que personne à part entière, et non comme un instrument d'un programme informatique. Le fameux colonel, ou bien Hideo Kojima. Ce qui explique alors sa relation approfondie avec Rosemary. Ce sera Snake qui lui offrira au cours du jeu un paquet de blondes, lui disant, je cite, « ça peut servir ». Autrement dit, pour lui permettre de voir de l'autre côté du miroir, Raiden doit fumer une cigarette. Enfin, et pour terminer avec le personnage de Raiden, si Naked Snake porte le masque du héros de Metal Gear Solid 2 lors de son combat contre le colonel Volgin dans Metal Gear Solid 3, celui-ci s'arrêtera de combattre pour se ressouvenir d'un de ses amis aux traits similaires, se revendiquant, encore une fois, personnage réel de l'histoire du jeu. Il est même possible d'aller plus loin. Quand Snake donne le paquet de cigarettes à Raiden, il n'est plus Snake. Il est sous couverture et devient un personnage à part entière, comme s'il léguait quelque chose. Et quand Naked Snake jette son cigare, c'est au cours du prologue où il finira par subir de lourds dégâts l'empêchant de poursuivre sa mission, ce qui va à l'encontre de toute règle d'un jeu vidéo qui stipule que du moment qu'un personnage est vivant, sa barre de vie est encore remplie et le héros peut donc recouvrer de toutes ses blessures. Se débarrasser du tabac, c'est donc oublier pour un instant que les personnages sont des créations de l'esprit et l'embrasser, c'est légitimer leur existence réelle. En un sens, il est légitime que le Solid Snake soit un personnage de jeu vidéo, et uniquement cela. Et il est même légitime qu'il n'y voit aucun problème. Clone de Big Boss, il n'est pas un être à part entière, il a été forgé de toutes pièces. Metal Gear Solid est pour moi une réflexion poussée sur la création d'un jeu vidéo. Un développeur utilise une ancienne licence, Metal Gear, crée des histoires, doit composer avec le support du jeu, d'où les retours en arrière, les cartes mémoire, etc., etc., doit donner au joueur la possibilité de sauvegarder, et ainsi de suite. Si Metal Gear Solid a su autant captiver les esprits, ce n'est pas seulement grâce à son gameplay novateur pour son temps, son histoire ou même son humour. C'est, je crois, également parce qu'il y avait, en dessous de ces couches accessibles et évidentes, quelque chose de fondamental et d'angulaire presque, qui parlait à tous les joueurs, quel que soit leur horizon d'attente ou leurs origines. De la même façon que Star Wars a pu, en son temps, utiliser les théories du monomythe pour bâtir une histoire intemporelle, Metal Gear Solid a pu atteindre une forme de grâce du même ordre. Encore une fois, je le rappelle, le propre de cette émission n'est pas de décider si cela a été voulu ou non par les développeurs, mais bien d'essayer d'étudier les signes et les réseaux qu'ils construisent et de trouver des formes cohérentes entre eux. Le signe de la cigarette est une excellente illustration de la façon dont les réseaux de signification peuvent se construire. En elle-même, la cigarette n'est qu'un indice visant à orienter le regard et à initier la réflexion. C'est qu'une fois que les autres signes que j'ai cités plus haut auront été découverts, que la chose prendra progressivement sens à l'esprit du joueur. Et quand bien même il ne verbalisera pas totalement ce qu'il a observé au cours de la partie, quelque chose lui restera, quelque part, une phase de jeu étrange ou un dialogue qu'il ne comprendra pas à cet instant de la partie. Allons un peu plus loin encore. Nous savons déjà que Metal Gear Solid 2 est une reconstruction parfaite, tant en histoire qu'en gameplay, de Metal Gear Solid premier du nom, le processus s'enclenchant pour Raiden au moment où Snake, alors sous couverture, lui offre un paquet de gitanes. Mais nous savons également que Naked Snake fume de gros cigares et qu'il est, dans l'histoire, le double ou le modèle originel de Solid Snake. Se pourrait-il alors que Metal Gear Solid 3 soit, lui aussi, une autre reconstruction parfaite de Metal Gear Solid? Autrement dit, se pourrait-il que la trilogie ne soit jamais qu'un seul et même jeu? Indépendamment des différences de gameplay que l'on peut trouver dans cette troisième itération, le camouflage, le besoin de se nourrir, etc. Le cœur du jeu, peu ou prou, n'a guère changé. Pas plus d'ailleurs que sa structure, divisée en phases d'infiltration et exploration, et en combats de boss particulièrement bien mis en scène. Est-ce que, cependant, dans Metal Gear Solid 3, la dimension jeu vidéo au second degré est-elle aussi développée et aussi principale que dans les autres épisodes? Comme nous l'avons déjà évoqué, Naked Snake est un fumeur, et ce dès le commencement du jeu. Selon notre théorie, il est donc un personnage de jeu vidéo et l'assume parfaitement. Étrangement, il me semble pourtant y avoir ici moins de moments où le quatrième mur se brise et où l'on nous montre les ficelles qui manipulent les marionnettes. Certes, on se doit de sauvegarder par l'intermédiaire du codec et la cigarette est encore présente. Cependant, il me semble que ce que propose Metal Gear Solid 3, si l'on considère toujours qu'il s'agit d'un jeu au second degré, n'est pas de refaire Metal Gear Solid encore une fois, mais de proposer une version alternative de celui-ci. Autrement dit, il s'agit de proposer une version bootleg du jeu, ce qu'il aurait pu être si d'autres choix avaient été faits au cours de son développement originel. Le symbole même de ce changement viendrait de l'antagoniste mécanique principal du jeu. Ce n'est plus un Metal Gear, mais le Shago-Od, le Metal Gear étant, au grand malheur de l'ingénieur à l'origine de sa création, délaissé par les instances dirigeantes au profit de son concurrent. Metal Gear Solid aurait pu s'appeler Shago-Od Solid. Et c'est encore dans ce troisième jeu que l'on découvre l'origine de Revolver Ocelot et son amour pour les armes à barillet, lui qui n'utilisait auparavant alors surtout que des armes automatiques et jonglait plus qu'il ne tirait sur sa cible. Ce n'est ainsi pas tant que Metal Gear Solid 3 est une redite qu'une variation. Le propos global, cependant, l'idée qu'un personnage de pixels ou de polygones doit soit se revendiquer comme personne à part entière, ou bien assumer son identité fictive, me semble demeurer par l'intermédiaire, cette fois-ci, non plus d'un des personnages principaux, mais par celui d'un boss, sans doute le plus mémorable de cet épisode, The Sorrow. The Sorrow est un personnage intéressant à plus d'un titre. Avant même d'évoquer son combat de boss, il me semble être ici l'un de ces signes transdimensionnels, du même type que la cigarette. Il appartient, selon la mythologie de l'histoire du jeu, à un plan d'existence intermédiaire entre les vivants et les morts, grâce à ses pouvoirs psychiques. Ou plutôt, devrais-je dire, entre le monde du jeu vidéo et le monde de l'univers historique que dépeint le jeu. Ainsi, il interagit bel et bien avec les différents personnages, comme dans cette scène où il pousse le fauteuil roulant de The End près des docks. Mais en contrepartie, il apparaît toujours dans des moments où le joueur peut briser les codes du jeu tels que voulu, se dit-on, par les développeurs. Aussi, dans cette scène avec The End, il est possible de tuer ce dernier d'une balle judicieusement placée sans avoir à l'affronter plus tard dans la partie. Lors de la séquence de torture, il nous donne, si l'on a l'esprit de regarder par les yeux, ou plutôt, devrais-je dire, l'œil, de Snake, la fréquence de codec nécessaire pour sortir de la prison sans avoir à s'échapper en refaisant les astuces mises en œuvre dans le premier Metal Gear Solid en pareille situation. Rappelez-vous ce que je disais sur l'œuvre alternative peu auparavant. En effet, il aurait fallu se faire passer ici pour mort pour sortir de la cellule grâce à la petite capsule de cyanure contenue dans sa dent. Quant à la confrontation avec The Sorrow, elle aussi combine les deux pans du quatrième mur, l'univers du jeu et l'univers de jeu. L'on a d'une part tous les gardes et les boss éliminés jusqu'à présent et dont les esprits se revendiquent comme des personnes vivantes. Et d'autre part, il nous faut utiliser la pilule de réanimation dont je parlais à l'instant comme on utiliserait une deuxième vie pour vaincre The Sorrow. J'aurais pu également citer cette scène iconique du jeu où Naked Snake grimpe cette immense échelle, passant alors d'un état de conscience à un autre. Cette séquence se déroule précisément juste après le combat contre The End, qui fait également figure de personnage à cheval entre les divers signes, comme je l'ai évoqué peu auparavant. La vieillesse, le fait de pouvoir le tuer en changeant la date de la console, ces choses sont on ne peut plus connues, aussi je ne développerai pas ça ici plus en avant.
Partie 6, conclusion et ouverture.
L'inclusion de la cigarette, en association avec d'autres éléments, crée un réseau de signes on ne peut plus pertinent pour nous permettre de plonger dans la tête des développeurs de Metal Gear Solid, faisant de ces jeux, à ma connaissance, les seuls jeux méta-vidéoludiques jusqu'à présent du média. Ils sont pour moi, avant tout, des réflexions approfondies sur l'essence du jeu vidéo et sur les rapports que celui-ci entretient avec la réalité et la fiction en nous proposant un angle de vue très particulier, celui des personnages eux-mêmes qui luttent pour leur propre existence. Les discours philosophico-éthiques qui ont garni ces jeux depuis le premier épisode des Solides et qui ont été tant décriés concernant le deuxième jeu ne sont pas gratuits. Ils permettent de donner une continuité théorique à des indices qui ont été disséminés au fur et à mesure du temps, mais que les joueurs, pour la plupart, n'ont pas su repérer, ce qui rend alors ces dialogues on ne peut plus impromptus si l'on n'y est pas préparé. Metal Gear Solid est un jeu existentiel, dans le sens le plus philosophique du terme. Il considère que notre identité est déterminée par nos actions, et non pas l'inverse. Ces jeux ne sont pas socratiques, au contraire. Il y a du Sartre en eux, lui qui déclarait que l'existentialisme était un humanisme, autre terme récurrent de la série. Et les personnages de Metal Gear Solid, du moins ses protagonistes, Solid Snake, Raiden et Naked Snake, tentent, autant que faire se peut, de sortir de leur condition de héros de jeux vidéo ou, pour l'histoire du jeu, de soldats ou de clones remplis de nanomachines et essaient, avec souffrance, de devenir des êtres à part entière. La fin des trois premiers épisodes, la fin des trois premiers Metal Gear Solid est à méditer, cependant. Dans le premier jeu, Solid Snake parvient à s'échapper de l'île maudite avec Meryl, ou avec Otacon, mais considérons cependant la fin canonique, telle que voulue par les développeurs, et fuit avec elle, avec lui, vers le soleil couchant. Snake a fini la mission, on peut dire qu'il a fini d'être soldat. Raiden, de même, termine sa mission. Il se libère, pour ainsi dire. Mais Naked Snake, devenu alors Big Boss, dans ce bureau rempli de dignitaires, à la fin de Metal Gear Solid 3, semble rester un tigre de papier, un instrument au service de qui le commande, le joueur ou les généraux. De ce que je puisse savoir cependant de la fin de Metal Gear Solid 4, m'étant renseigné un tant soit peu avant d'écrire ce papier, il semble bien que sa quête soit arrivée à une fin heureuse. Malheureusement, il en faut peu pour qu'à nouveau les hommes redeviennent des marionnettes. Raiden reprend du service, et la série des Metal Gear Solid continue encore aujourd'hui. Aussi, je voudrais terminer cette émission par une question. Cela sera peut-être jugé un peu sentimental, mais je me demande quand ces êtres de polygones parviendront enfin à avoir la paix qu'ils revendiquent autant. Et ça, malheureusement, j'ai bien peur que seul Dieu, les développeurs ou le joueur le sachent.